bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire de la conférence de presse des Nations Unies. Comme d'habitude, après les informations des sections de la MONUSCO, nous donnerons la parole à nos collègues de l'équipe pays, notamment Geneviève Delenoy pour le pilier développement et Yvon Edemou pour le pilier humanitaire. Ensuite, nous aurons le porte-parole militaire par intérim, le major Kékéré Pamphil, qui nous donnera un point sur la situation militaire. Nous vous proposerons ensuite un extrait du rapport mensuel de la situation des droits de l'homme en RDC, préparé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. Et depuis Goma, en principe, nous aurons l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Mary Robinson, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies RDC, Martin Kobler, et Richard Mouillège, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de la RDC. Voilà donc pour les grands titres de cette conférence de presse que nous commençons tout de suite avec donc ces informations des activités des composantes de la MONUSCO. Pendant la semaine écoulée, la section protection de l'enfant de la MONUSCO a documenté les cas de 15 enfants associés aux groupes armés. Le recrutement a été fait par les Mai Mai Kifuafua, Raya Mutomboki, LRA, NDC Tcheka, FPC AP, ADF et le groupe armé Maélé. Les victimes âgées de 9 à 17 ans ont été recrutées entre 2010 et février 2014 en province orientale, en province du Nord et du Sud Kivu. Trois d'entre eux avaient moins de 15 ans, ce qui constitue un crime de guerre. Ils ont été utilisés comme combattants, escortes et porteurs. Appui au processus électoral, la MONUSCO organise une semaine pédagogique du 15 au 22 mai à Bandaka à l'intention de la police nationale congolaise. Il s'agit d'un séminaire de renforcement de capacités opérationnelles en matière de sécurisation du processus électoral. Durant cette période, de haut cadre de la police congolaise en Équateur vont recevoir des enseignements théoriques qu'ils seront chargés à leur tour de répercuter auprès de leurs collègues à la base et à l'intérieur de la province. Voilà donc pour ce qui concerne les activités des composantes de la MONUSCO. Tout de suite, nous laissons la parole à Geneviève Delenoy pour les informations sur le volet développement. Bonjour Geneviève.
Bonjour Charles.
Que retenir cette semaine des actions de développement engagées sur le terrain par les agences des Nations Unies?
Bonjour à tous. Tout d'abord, le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, a lancé officiellement sa stratégie d'appui aux radios communautaires de l'Est de la RDC à travers un atelier qu'il organise cette semaine. L'objectif est d'accompagner les radios partenaires à trouver des solutions à la viabilité économique de leurs radios, à la cohésion entre ces radios et leurs communautés respectives. La volonté du PNUD à travers cette stratégie est de soutenir les communautés, outils par excellence de communication sociale et partenaire du développement à part entière. 13 radios venues de 4 provinces de l'Est de la RDC, à savoir le Nord Kivu, le Sud Kivu, la province orientale et le Nord Katanga, sont représentées dans cet atelier. Pour rappel, le PNUD souhaite développer son appui aux radios communautaires dans l'Est de la RDC de manière intégrée et uniforme sur base d'une stratégie globale pluriannuelle et couvrant plusieurs provinces pour lesquelles il devra maintenant chercher des moyens de financement auprès des bailleurs potentiels. Vous connaissez le rôle irremplaçable des radios communautaires en RDC et à travers le monde. Il n'est plus à démontrer. Rappelons qu'il intervient dans le processus de diversité culturelle, d'information, d'éducation, de lutte contre la pauvreté, de cohésion sociale et pour le développement, dans la construction pour le changement social au bénéfice des populations et en particulier des groupes marginalisés, ainsi que pour leur sécurité. Toujours à propos du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD appuie les travaux de finalisation de la politique nationale sur le volontariat en RDC. Avec l'appui du PNUD, le ministère du Plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité poursuit ses efforts en faveur de la promotion du volontariat comme outil de paix et de développement. Ensemble, ils veulent aider les associations de volontaires, ONG, secteur privé et société civile à atteindre 4 objectifs: la reconnaissance, la facilitation, la promotion et la mise en réseau. Assurer la reconnaissance du volontariat dans les programmes de développement, d'assistance humanitaire et via la responsabilité sociale des entreprises privées. Et mettre en œuvre également une vision commune sur le rôle du volontariat dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. c'est dans ce cadre que se dessine et s'élabore cette politique nationale du volontariat en RDC. Et enfin, le PNUD, toujours, a tenu son comité de pilotage sur la décentralisation et la bonne gouvernance cette semaine pour voir si les résultats obtenus coïncident avec les priorités nationales, analyser les défis et réfléchir aux meilleures solutions pour les bénéficiaires. L'un des défis majeurs de ce comité de pilotage est aussi d'aider la partie nationale, les autorités provinciales et les entités territoriales décentralisées à mieux comprendre et s'approprier le processus de décentralisation et de gouvernance locale, à renforcer les capacités des administrations locales, assurer un meilleur transfert des ressources financières et des compétences humaines et techniques, et également mettre en place les mécanismes de financement de la décentralisation, de redevabilité et de transparence avec une participation citoyenne accrue. Des communiqués de presse sont disponibles à la fin de cette activité. Merci.
Merci Geneviève. Pas d'informations aujourd'hui sur le volet humanitaire, mais notre collègue Yvon Edoumou Doucha est dans la salle et pourra éventuellement répondre à des questions touchant les activités humanitaires en RDC. Tout de suite la parole au major Kékéré Pamphile, porte-parole par intérim de la MONUSCO pour un survol de l'actualité militaire de la semaine écoulée. Bonjour major.
Oui, bonjour Charles. Pour un survol rapide de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, nous allons d'abord commencer par l'ouest de la République démocratique du Congo, où la situation a été jugée relativement calme. Toutefois, elle demeure volatile à la frontière avec la Centrafrique, suite à l'insécurité causée par les éléments de la Séléka et des Antibanaka. Ainsi, le 16 mai 2014, en Équateur, les deux rebelles centrafricains anti-Balaka appréhendés précédemment par les forces armées de la République démocratique du Congo à Zongo ont été relâchés et remis aux autorités centrafricaines de la région frontalière. En province orientale, la force de la MONUSCO et les FARDC poursuivent avec détermination leurs opérations conjointes menées dans les districts de Ro et Baoulé. Les 13 et 14 mai 2014, un militaire de l'armée de libération du peuple soudanais a été appréhendé par les FARDC au cours de l'incursion de sa section à Nambiapayi, 4 km dans le territoire congolais, dans la région de Dungu. Il faut noter qu'après cette capture, les militaires de SPLA ont fait une deuxième incursion et ont capturé un militaire congolais. Après des rencontres bilatérales, un échange de prisonniers a été effectué, la situation est redevenue calme. L'environnement sécuritaire dans le district de Lutuli est relativement calme et caractérisé par les opérations des FARDC soutenues par la force de la MONUSCO contre les éléments du Front de Résistance Patriotique de Lutuli, FRPI, auteur de plusieurs exactions dans les localités situées au sud du territoire du Rumu. En effet, le 14 mai 2014, les miliciens du FRPI ont attaqué le camp de déplacés de Munobi, 10 km ouest de Aveba, les villages de Mutimba, de Matongo, de Mawera et d'Areva, où ils ont pillé plusieurs maisons, torturé, kidnappé des individus et commis des viols. Dans cette même période, entre le 14 et le 15 mai 2014, les FARDC, avec l'aide de la population locale et soutenue par la force de la MONUSCO, ont appréhendé 15 insurgés du FRPI pour des exactions et établissements de postes de contrôle illégal à Mumbaya, 52 km sud de Bounia, à Molombo, 6 km sud de Komanda, ainsi que dans la région située entre le pont de Loya et Ngombanjema. Il faut noter qu'au cours de cette opération, deux armes AK-47 ont également été récupérées. Face à cette situation, la force de la MONUSCO a, depuis le 19 mai 2014, déployé un poste opérationnel dans la région de Niania pour assurer les escortes des humanitaires et protéger la population. Quand nous passons à la province du Nord Kivu, la situation sécuritaire est demeurée volatile et imprévisible. Les opérations de ratissage contre les rebelles de l'Alliance des Forces Démocratiques, ADF, sont toujours en cours. Dans le territoire de Walikale, deux soldats des FARDC ont été kidnappés le 13 mai 2014 par les rebelles des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda FDLR à Maïba, en représailles aux opérations menées au préalable dans la région par les troupes gouvernementales, au cours desquelles 8 éléments FDLR FOCA avaient été appréhendés. Le 15 mai 2014, la force de la MONUSCO, l'armée congolaise et la police nationale congolaise ont de manière conjointe facilité le bon déroulement des examens d'État dans les territoires de Massissi et de Walikale, en assurant la sécurité dans les sites où ces épreuves étaient organisées. Les éléments de ces trois forces ont été déployés dans les localités à haut risque, notamment à Kachemere, Bouniampouli, Mpofi et Niabiondo. Il faut noter que le 17 mai 2014, deux éléments de FLDR, FDLR, ayant attaqué les positions des FADC en Deco, 11 km sud de Rondi, ont été tués et une AMAK 47 récupérée. Quant à la province du Sud Kivu, elle reste sous le contrôle des troupes onusiennes et congolaises. Notons quand même que dans la région de Fizi, l'offensive des forces gouvernementales contre les rebelles du groupe Raia Mutomboki se poursuit avec le soutien des forces de la MONUSCO. Quant au Katanga, le climat sécuritaire reste marqué par les actions négatives des Maïmaï Baka Katanga et des Pygmées. Le 12 mai 2014, deux éléments Maïmaï Bakata Katanga ont été tués et deux autres appréhendés au cours des combats avec les FADC au village Kaputulu, 55 km nord-est de Lubumbashi. Ces affrontements ont provoqué le déplacement d'environ 600 individus vers le village de Kumwawa, situé 41 km au nord-est de Lubumbashi. Le 19 mai 2014, les Maïmaï Bakata Katanga ont attaqué la position des FADC Ampiana, 95 km sud-est de Manono. L'attaque a été repoussée et le chef Maïmaï Fidèle Ntumbi arrêté par les FADC. Quant au secteur 2, la situation sécuritaire est restée sous contrôle. Au chapitre des redditions, nous notons près de 83 éléments en provenance de différents groupes armés qui se sont rendus aux troupes onusiennes, aux troupes congolaises et au bureau DDR déployés dans les différentes provinces. Enfin, la force de la MONUSCO a mené 1800 patrouilles armées, dont 527 nocturnes, et fourni 18 escortes au cours de cette période. Charles de Bourgès.
Merci donc au major Kékéré Panfil, porte-parole par intérim de la MONUSCO. Pour votre information, le commandant adjoint de la force, le général Jean Bayou, est à Goma et pourra répondre à d'éventuelles questions militaires. Nous vous invitons maintenant à suivre un rapport, le rapport mensuel donc du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC, une présentation de Scott Campbell. Scott, bonjour.
Bonjour Charles. Merci pour la parole. Je vais juste survoler les tendances et vous donner quelques statistiques en ce qui concerne le mois d'avril 2014. Je serai très bref, mais je vous informe que le texte intégral sera vous remis après le point de presse avec plus de détails. Donc, au cours du mois d'avril 2014, notre bureau a enregistré 232 violations de droits de l'homme sur le territoire de la RDC, ce qui représente une augmentation d'environ 23% par rapport au mois passé, au mois de mars. Le nombre de victimes qui ont résulté de ces violations a presque triplé depuis le mois de mars, c'est chose qui nous préoccupe. Les types de violations de droits de l'homme les plus rapportés sont les atteintes au droit à l'intégrité physique, suivies par les atteintes au droit à la liberté et sécurité de la personne, les atteintes au droit à la vie et les atteintes au droit de propriété. Les provinces les plus touchées restent les provinces de l'Est de la RDC, à savoir les provinces de Nord Kivu et Sud Kivu, mais je note que presque 80% des victimes concernées par les violations sont les résidents du Nord Kivu. En termes de la responsabilité, il y a un mélange de presque 50% de responsabilité par les agents étatiques et 50% de responsabilité qui se trouve au sein des différents groupes armés. Plus spécifiquement, la FARDC et les agents de la PNC auraient été responsables respectivement d'environ 30 et 18% du nombre total des violations de droits de l'homme documentées par notre bureau au cours du mois d'avril. Les combattants des groupes armés auraient été responsables, quant à eux, d'environ 46% du nombre total de violations de droits de l'homme au cours du mois d'avril. Et parmi ces groupes, je soulignerai que c'est le FDLR aurait été les principaux auteurs de violations de droits de l'homme, suivis par les groupes Maïmaï, tous confondus, et puis par les Niatora. Et je note toujours, comme je le fais chaque mois, que nous avons honnêtement des problèmes même pour documenter et confirmer les violations commises par les groupes armés, car très souvent, ce sont des violations, des allégations qui ont eu lieu dans les coins très reculés. Donc souvent, il faut prendre cela en considération lorsque je vous donne des chiffres. Au cours du mois d'avril, nous avons enregistré aussi un nombre élevé de victimes de violences sexuelles, à savoir un peu plus de 80 femmes et dont près de 40 filles. Et la grande majorité de ces cas de violences sexuelles rapportées ont été commis aussi dans la province de Nord-Kivu, puis dans une moindre mesure dans les provinces de Katanga et Oriental. Finalement, en avril 2014, nous notons aussi avec préoccupation la persistance des atteintes aux droits des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes. Notre bureau a enregistré les atteintes aux droits à l'intégrité physique à l'encontre d'un défenseur des droits de l'homme, de deux membres de sa famille et d'un journaliste, ainsi que des atteintes aux droits à la liberté et à la sécurité de la personne contre un défenseur des droits de l'homme et quatre journalistes dans les provinces de Kasaï occidental, Kasaï oriental, Katanga et le Sud-Kivu. Je termine en vous rappelant que les détails sur ces informations sont partagés systématiquement avec les autorités nationales, qui à leur tour partagent ces informations avec les autorités provinciales et locales pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions à travers notamment des enquêtes judiciaires. Et ces efforts ne sont pas sans résultat. Au cours du mois d'avril, nous notons qu'au moins 4 agents de la PNC, 4 militaires des FARDC, ainsi que 13 combattants de Mai Mai Simba ont été condamnés pour des actes constituant des violations de droits de l'homme, y compris pour crimes contre l'humanité par viol. Je vous remercie.
Merci donc à Scott Campbell, qui, je vous le rappelle, est le directeur donc du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ici en RDC. Et comme il le disait tout à l'heure, l'intégralité de ce rapport vous sera remis à la fin de cette conférence de presse. Direction à présent Goma, où s'est ouverte ce matin la 7e session du comité d'appui technique pour la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération à RDC et dans la région des Grands Lacs. Notre première intervenante depuis Goma sera tout à l'heure l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Mary Robinson. Et juste après, va intervenir M. Richard Mouyej, ministre congolais de l'Intérieur et de la Sécurité. Bonjour Goma, bonjour Mme Robinson, la parole est à vous.
Merci et bonjour à tous. Je suis très contente avec mes collègues d'être de partager dans cette conférence de presse. Nous sommes, comme vous avez dit, à Goma, dans le cadre de la réunion du comité d'appui technique et qui est chargé de suivi de la mise en œuvre des engagements régionaux pris au titre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et coopération en RDC et dans la région. Le comité est constitué des représentants de haut niveau des 13 pays signataires de l'accord cadre. Depuis sa création en mai 2013, le comité d'appui technique s'est réuni 6 fois à Nairobi. Mais maintenant, c'est la première fois à Goma. Les gens sont sur le terrain, ont la possibilité de visiter les camps pour les déplacer, les camps pour les DDA, et aussi d'examiner le progrès accompli au titre de la mise en œuvre du plan d'action régional qui contient des engagements pris par les chefs d'État au janvier dernier, et notamment renforcer le mécanisme conjoint de vérification élargie, d'élaborer un plan pour une gestion commune des frontières, d'encourager la mise en œuvre des déclarations de dialogue de Kampala et d'examiner les mesures favorisant le retour sûr et volontaire des réfugiés et personnes déplacées. Alors, c'est vraiment un signal très positif que le comité est ici à Goma pour ce rencontre. Merci.
Merci. La parole est à M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Richard Mouyej. Bonjour.
Bonjour, merci infiniment. Je ne vais peut-être pas revenir sur ce que Mme Robinson a dit. J'insisterai sur le fait que cette rencontre a été pour nous un temps d'évaluation. Nous devrions nous poser la question de savoir, dans le cas des engagements pris par les partis, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire et quelles sont les stratégies pour plus d'efficacité. Comme vous le savez, la région a été pertinente perturbée par des turbulences, par des mouvements des populations. Et dans la plupart des cas, la RDC a été le théâtre de tous ces désordres. Donc s'il y a une partie qui est pressée de voir les choses revenir rapidement à l'ordre, c'est bel et bien la RDC. Voilà pourquoi la rencontre nous a préoccupés au plus haut niveau. Merci.
Nous avons aussi également à Goma, toujours dans le cadre de cette session du comité d'appui technique pour la mise en œuvre de l'accord cadre, M. Boubacar Diarra, envoyé spécial de l'Union africaine. M. Diarra, bonjour, la parole est à vous.
Oui, bonjour. Comme Marie Robinson l'a dit, nous sommes venus ce matin à Goma tenir les assises de notre 7e réunion du comité d'appui technique. Dans cet effort de rapprochement du comité d'appui technique avec les réalités des pays, pourquoi ? Parce que la RD, comme vous l'avez dit, a été le théâtre de violence que nous avons déploré dans le dernier trimestre de 2012. Et la RD Congo est partie signataire de l'accord cadre de paix, de sécurité et de coopération. Et effectivement, nous avons souhaité finir maintenant, constater par nous-mêmes sur le terrain les efforts de stabilisation accomplis par le pays depuis, et effectivement préparer notre rapport de septembre 2014 à New York, comme les chefs d'État nous l'ont demandé. Je vous remercie.
Merci bien. Direction maintenant, nous restons à Goma pour donner la parole à Martin Kobler, qui en quelque sorte reçoit cette conférence là-bas à Goma. Monsieur Kobler, la parole est à vous.
Voilà, merci bien. Je n'ai rien à ajouter. Maintenant, c'est le jour du ministre et de Mary Robinson. J'ai l'occasion toujours chaque semaine avec vous. Maintenant, c'est vous d'y répondre. Mais laissez-moi ajouter, cher membre de la tête. Ils me connaissent. Cher auditeur.
Merci,
cher auditeur de Radio Capital. Je suis très très heureux que vous êtes ici. Et je suis très heureux qu'une conférence sur le sujet de la RDC, sur les problèmes ici, se déroule ici en RDC. On a parfois des conférences au dehors, à Nairobi, à Kampala, à Lusaka, à Saint-Tite et à un autre endroit. Je crois que c'est un symbole fort maintenant qu'on a des conférences ici. C'est le Congo, ce sont les problèmes congolais. Il faut chercher des résolutions aussi ici dans le pays.
Oui, avant la séance de questions-réponses, je m'en voudrais de ne pas donner la parole au gouverneur Falouku, qui est l'hôte de ce sommet. En quelques mots, qu'est-ce que vous avez à dire, gouverneur Falouku?
Oui, merci beaucoup, bonjour à tout le monde. C'est une joie immense de recevoir en présence de Mme Robinson et surtout saluer son engagement pour l'accompagnement des efforts de pacification. Je sais la présence de tous les envoyés des chefs d'État et je sais que c'est un espoir pour les tous de la paix du Sénat.
Merci, nous allons rester.
Merci de m'avoir donné la parole. Je suis Mireille Kéké de la Direction nationale RTNC à Kinshasa. Ma première question, je la pose à Madame Mary Robinson. Madame, je voulais justement savoir à l'issue de cette inscription du comité d'appui technique, quelle est l'évaluation que vous faites du processus pour les retours de paix dans la région. Là, je voulais clairement savoir les avancées déjà réalisées et ce qui reste à faire. Ça, c'était la première question. Je ne sais pas si je peux engager directement ma deuxième question. Ma deuxième question, je l'adresse au ministre de l'Intérieur. Excellence, je voulais savoir la position du gouvernement congolais face aux postes frontaliers dont les bornes ont été déracinées. Comment comptez-vous arriver à cette situation? Merci.
Permettez-moi tout d'abord aussi de dire aux membres de la presse ici, on a le secrétaire exécutif adjoint de la CRGL ici parmi nous qui organise aussi la conférence et est aussi prêt de répondre.
Alors merci pour la question très importante. À mon avis, oui, on a fait du progrès. On a fait de vrais progrès. On a vu qu'on a eu le défi militaire de M23 et même le rôle qui joue le comité d'appui technique est très important parce qu'on avait préparé un plan d'action pour les chefs d'État. Les chefs d'État ont adopté ce plan d'action au mois de janvier. Maintenant, on est en train d'évaluer le progrès sur ce plan d'action parce qu'au mois de septembre, avec l'ambassadeur Diarra, on va faire un rapport aux chefs d'État. C'est ça que vous avez dit, mais vous n'avez pas fait assez de progrès. Il faut faire de progrès dans beaucoup de niveaux. Et avec le DDA, avec le mécanisme conjoint de vérification élargie, nous avons parlé de ça ce matin, et surtout progrès contre les groupes armés. Oui, on a fait de progrès avec le M23, avec le ADF, mais il faut qu'on commence avec le FDLR. C'est très important. Mais vraiment, je crois que le fait que la comité peuvent se rendre ici à Goma, c'est une preuve du progrès qu'on a fait.
En ce qui me concerne, je dirais que la question est très sensible et importante quand il s'agit des déplacements de bornes. Nous faisons très attention à tout ce qui peut apparaître comme une provocation ou un prétexte de guerre. Nos populations ont suffisamment souffert, nous voulons privilégier la paix. Voilà pourquoi nous restons dans l'esprit du chef de l'État qui nous invite à la diplomatie. Nous privilégions dans tous ces genres de cas la voie du dialogue. Et nous avons une commission, la Commission nationale des frontières, qui est à pied d'œuvre, qui entre en contact avec tous les États où il y a ces genres de problèmes pour essayer de trouver une solution à l'amiable. Notre commission, son président, le professeur Bouyandi, là, qui est dans la salle, a effectué de nombreux voyages pour se documenter de manière à revenir sur les tracés exacts. Et jusque-là, je vois que nous menons à bien nos missions et nous évitons qu'on nous crée un nouveau front. La jeunesse et les mamans nous disent qu'ils en ont marre de la guerre.
Nous restons à Goma.
Merci. Merci beaucoup, c'est une très bonne importance tabacou. Ma question s'adresse à Madame Marie Robinson. J'aborde la question d'amnistie. Est-ce que c'est vrai les éléments du M23 qui sont en Uganda, tels que Matenga Sultani, Bertrand Bisimwa, ont signé les fiches des demandes d'amnistie, alors que Madame, il n'y a pas très très longtemps, vous les avez traités des non-amnistiables, et comment aujourd'hui ils ont accès à cette amnistie? Est-ce que vous pensez qu'ils les méritent? Sinon, est-ce que ces fiches vont aussi aller au Rwanda où il y a Runiga et les autres innocents? Est-ce que vous pensez que cela est possible? Et il le mérite surtout.
Bon, merci pour la question. Je me rappelle vraiment qu'on avait beaucoup discuté pendant le processus de Kampala, qu'il y aura l'amnistie pour beaucoup de gens qui n'avaient pas fait des crimes contre l'humanité et tout ça, mais pas pour les gens qui étaient sur les listes, qui avaient fait des crimes très sérieux. Alors, ça reste la situation, ça n'a pas changé. Alors, ce qui me préoccupe beaucoup à ce moment, c'est qu'il faut faire plus de progrès avec les gens qui sont ou bien à Uganda ou bien à Rwanda, qui devraient maintenant revenir dans le RDC pour le DDR. Parce que la loi d'amnistie n'existe après le mois d'août. Alors, c'est nécessaire de faire du progrès sur ça, parce que c'est pas bon pour la paix qu'il y a les gens dans les autres pays qui restent là. Alors, il faut faire du progrès avec le DDR.
Je voudrais peut-être, si ça ne vous gêne pas, compléter, madame. Le simple fait de remplir une fiche ne signifie pas accéder au privilège de l'amnistie. Il faut remplir la fiche et il faut attendre la réaction. Et au niveau du gouvernement, le ministère de la Justice a bien défini les contours, donc tous les cas amnistiés sont connus.
Nous restons toujours à Goma pour une dernière question.
Je suis Gabriel Wamenga de Radio Kapi. J'ai deux petites questions de proximité que je vais adresser au ministre de l'Intérieur. C'est par rapport au sort des 4000 policiers issus des différents groupes armés qui ont été intégrés dans la PNC, mais qui jusqu'aujourd'hui attendent désespérément leur mécanisation. Non ni sol, non ni vélo matricule. Si vous pouvez nous donner quelques soins à ce point. Deuxième question, c'est par rapport à la suspension ce coutumier sur ordre du gouverneur. Nous voulons aussi avoir des éclaircissements sur
Il s'agit bien de questions de proximité, comme il a dit. Pour la première question, je serai sincère avec vous. Je regrette amèrement que la lourdeur persiste en ce qui concerne l'intégration parfaite de ces 4000 policiers, mais je peux vous assurer que tout sera mis en œuvre pour que cela arrive. C'est très dangereux, c'est un précédent qui nous gêne pour de nouvelles intégrations parce que tout le monde se réfère à cette faiblesse, ce qui convient réellement d'appeler faiblesse. Mais rassurez-vous que nous allons y apporter une solution. Par rapport aux incidents de Nyiragongo, c'est un problème de principe et de discipline. Quand le conseil des ministres s'est tenu ici, nous avions analysé toutes ces situations liées au conflit coutumier et foncier. Il avait été décidé au niveau du gouvernement que rien ne devait être entrepris au niveau de la province, que le gouvernement devait constituer une commission pour arriver à résoudre toutes ces questions, étant donné les sensibilités et les susceptibilités que nous connaissons tous. Je voudrais en profiter pour vous dire, vous mes frères du Nord Kivu, il faut nous aider à vous aider. Alors, ce qui est arrivé justement est à l'encontre du principe. J'avais appelé le gouverneur qui était à côté de moi à ce moment-là au Katanga pour demander qu'on arrête la démarche. Et j'ai eu l'amabilité d'appeler l'AT du territoire pour lui dire que cette démarche était dangereuse, que le gouverneur était prévenu qu'il fallait l'arrêter. Il y a eu des rapages dans les langages. Voilà ce que j'ai appelé problème de principe en ce qui concerne le gouverneur et problème de discipline en ce qui concerne l'AT. Puisque vous avez posé la question sur l'AT, je ne vous dis pas ce qui s'est passé avec le gouverneur, mais l'AT devait être sanctionné. Il est temps qu'on puisse travailler dans la discipline.
Merci. Nous allons revenir ici à Kinshasa car nous avons beaucoup de journalistes impatients d'adresser leurs questions également au panel à Goma. Une question ici tout d'abord.
Patrick Mbanga pour l'expression. Je pose ma question au ministre de l'Intérieur. Excellence, la question sur les Mororo pose beaucoup de problèmes dans la province orientale. Dernièrement, il y a eu même des députés nationaux qui ont adressé un mémo au gouvernement. Je le pense bien que vous avez déjà eu ces mémos-là. Qu'est-ce qu'on peut attendre de votre ministère pour essayer un peu d'éradiquer cette situation? Et la deuxième question, je poserai à Mme Robinson. Si elle peut faire un peu des analyses critiques à ce qui concerne l'amnistie en RDC.
Monsieur Bouillet, la première partie de la question.
Oui. Je ne sais pas si c'est encore une question de proximité, j'ai l'impression qu'on s'éloigne du cadre. Mais je vais quand même y répondre parce que la question a déjà été posée. Les Mbororo, ce sont des réfugiés climatiques. Et pour leur gestion, il y a des règles internationales. J'ai eu l'occasion de me rendre moi-même, dès le début de mon mandat, en tant que ministre de l'Intérieur, à Ango, où je me suis entretenu avec les Mbororo. La seule peur qu'il y avait est qu'il puisse s'agir des apatrides. Or, lors des contacts que j'ai eu avec les Mbororo, tous connaissaient leur nationalité, tous savaient d'où ils venaient, et tous savaient par où passer pour rentrer. Et tous étaient d'accord de partir. Et dans ces règles, ce qu'il faut éviter, c'est de les chasser par la force. Il faut négocier et arriver à un départ volontaire, comme on le fait avec tous les réfugiés. Et je crois qu'il faut nous donner le temps de le faire, et nous sommes sur le dossier. La confusion qu'il y a dans l'opinion, c'est que ces gens auraient demandé de s'installer. En tant que ministre de l'Intérieur, je sais que j'ai eu des lettres de certaines organisations internationales qui allaient dans ce sens, mais je n'ai jamais eu une lettre de Mbororo qui demandait de rester. Nous avons signé un PV où ils ont accepté de partir librement, et nous n'étions pas seuls, nous étions plusieurs partis, dont la MONUSCO, la société civile, les Mbororo et le gouvernement. Donc c'est une question, à mon avis, partiellement réglée. Il faut nous faire confiance.
La deuxième partie de la question était adressée à Mme Robinson. Elle disait, est-ce que vous pouvez analyser la question de l'amnistie en RDC? La question n'est pas très précise, mais bon, Mme Robinson va essayer d'apporter quelques éléments.
Bon, alors, quand la loi de l'amnistie a été passée par le Parlement, promulguée par le président, j'étais très contente. C'était très important que c'était fait et qu'on avait appris les leçons du passé. Parce que ce n'est pas l'amnistie pour tout le monde, comme on savait. Alors maintenant, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est de faire plus de progrès avec le DDA. Que les gens, les ex-M23 qui sont en Ouganda, en Rwanda, doivent maintenant revenir dans le RDC pour le DDA. Alors, vraiment, j'espère qu'on peut faire beaucoup plus de progrès parce qu'on n'a pas donné l'amnistie à beaucoup de gens jusqu'à maintenant, surtout les ex-M23. Mais je suis très contente avec la loi et je vais seulement que c'est la mise en œuvre maintenant qu'il faut.
Merci. Nous allons prendre une question à ma gauche ici. Oui. Rapidement, présentez-vous le nom de votre organe.
Eh bien, Hakim Kombo, Canal Kinshasa Télévision. Je m'adresse au ministre de l'Intérieur. Madame Robinson venait de dire que parmi les grandes avancées dans l'accord cadre d'Addis Abeba, il faut noter la défaite du M23. Alors, pour l'instant, les FDLR restent encore une urgence à régler selon la MONUSCO et Madame Robinson. Est-ce que vous aussi, ministre de l'Intérieur, ce dossier est-il parmi les urgences dans votre programme?
Merci. Réponse donc à Monsieur Mouyej.
Absolument. Il faut éviter de se laisser séduire par les discours des Russes qui tendent à faire croire que le gouvernement congolais ou le peuple congolais agirait en complicité avec les FDLR. S'il y a une partie de l'espace qui a souffert de ces FDLR, qui a souffert de l'ouverture de ces corridors humanitaires en 1994, c'est bien la République démocratique du Congo, et sur tous les fronts. Sur le plan humanitaire, sur le plan environnemental et sur le plan politique. Donc s'il y a un pays qui est pressé de voir les FDLR partir, c'est bien la RDC. Et d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, il y a eu encore une attaque de l'opposition dans les territoires de Nirongo par les mêmes FDLR. Ils ont fait des victimes parmi les innocents. Il y a un mort et un blessé et nos FRDC continuent à les traquer. Ils doivent partir. Et je peux vous rassurer que c'est parmi les grandes priorités et sur ce point, nous sommes d'accord avec la MONUSCO.
Merci. Dernière question à Kinshasa avant de retrouver Goma.
Elisabeth Serrault de RFI, j'avais deux questions, une à M. le ministre de l'Intérieur et une à
Stéphane. On peut prendre une question, il y a beaucoup de journalistes qui sont...
Je vais faire très vite. M. le ministre de l'Intérieur, je voulais savoir quelle est votre réaction par rapport à la décision du Congo-Brazzaville de demander un passeport et un visa aux Congolais de Kinshasa pour traverser et à Scott Campbell. Sur le rapport sur les violations des droits de l'homme, vous avez dit qu'il y avait 3 fois plus de victimes ce mois-ci, que c'est inquiétant. Comment s'explique cette augmentation et en quoi consiste l'essentiel des violations? Vous avez parlé du viol, si vous pouvez me donner un peu plus de détails. Merci.
Monsieur Mouyej à Goma.
Bon, nous avons été tous surpris par ce nouveau développement de ce qu'il convient désormais d'appeler une crise, parce qu'elle a duré et elle peut affecter nos bonnes relations avec Brazza. Il y a eu au départ l'expulsion de irréguliers, d'après ce qu'on nous a fait croire, mais par la suite nous avons observé que même les paisibles citoyens étaient rentrés. On a parlé de retour volontaire, mais après certains contacts, nous avons appris que les conditions étaient créées pour susciter ces retours, dits volontaires entre guillemets. Cela est regrettable. Nous avons invité les officiels d'en face du Congo-Brazza pour que nous puissions ensemble évaluer la situation et tirer des leçons. Jusque-là, nous ne sommes pas encore rencontrés, mais je voudrais rappeler à l'opinion que depuis le début de cette crise, nous avons organisé 6 missions importantes à Brazza, et le Brazza en a organisé 2. Et la dernière réunion de la commission mixte politique défense Congo-Kinshasa, Congo-Brazza s'est tenue à Oyo, donc il est tout à fait normal que cette réunion se tienne à Kinshasa. Nous avons adressé une invitation au Congo-Brazza, mais en retour nous avons reçu une invitation de la délégation de Kinshasa à Brazza. C'est une petite confusion que j'espère que nous allons régler. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une faiblesse, Nous privilégions les dialogues et nous espérons que nous arriverons à des solutions. Le dernier développement est justement celui que vous venez d'évoquer, où on a vu nos compatriotes refoulés parce qu'ils n'avaient pas, ils n'avaient que les laisser passer, ce qui jusque-là était admis. On a exigé les passeports et les visas, mais tout de suite j'ai donné l'instruction à la DGM de faire autant. C'est ce que nous faisons aussi. Mais c'est une politique que nous n'aimons pas beaucoup, mais c'est vrai, dans la Bible il est dit quand vous recevez une gifle à gauche, donnez la joue droite. Mais quand on en reçoit deux, ça devient difficile d'en recevoir une troisième. Mais ce que nous voulons est que nous puissions nous rencontrer, parce que tout ce qui se passe est contraire aux accords que nous avions convenus lors de la tripartite Angola-RDC-RC. Nous souhaiterions que les contacts se prennent très vite pour éviter de fragiliser les relations qui sont déjà assez bonnes. Au niveau de l'espace frontalier, ce sont les mêmes peuples, ce sont pratiquement les mêmes cultures. En ce qui concerne la partie qui est la nôtre, nous continuerons à faire cet effort pour réaliser le rapprochement. Mais rassurez-vous, là je voudrais m'adresser à l'opinion qui considère que le gouvernement est faible. Le gouvernement n'est pas faible. Nous aurons l'occasion de faire un point de presse pour expliquer notre position actuelle. Merci.
Merci. Retour ici, Scott Campbell. Quelques éléments de réponse également rapidement.
Oui, très rapidement. Donc on explique que cette hausse en termes de nombre de victimes au mois d'avril, à cause du contexte, principalement au Nord Kivu, il y a toujours des opérations importantes, des attaques des groupes armés contre les civils. On note trois sortes de violations de droits de l'homme. D'abord, les atteintes aux droits de propriété, donc concrètement beaucoup de cas de pillage contre la population. De deux, des atteintes aux droits de la liberté et sécurité de la personne. Donc beaucoup aussi d'enlèvements par les groupes armés principalement, aussi beaucoup des arrestations arbitraires illégales, y compris par l'armée congolaise, et des droits de violation aux droits à l'intégrité physique. Et là, on avait presque 200 cas, y compris 73 cas de violences sexuelles.
Merci, direction Goma, pour des questions. Deux questions à Goma, s'il vous plaît.
Oui, moi c'est Kenny de l'agence Reuters. Je m'adresse à Madame Mel Robinson. Tous nous savons comment et pourquoi les FDLR sont sur le territoire congolais. Mais ce qui est regrettable, c'est que la communauté internationale est restée un peu lâche par rapport à cette situation. Vous faites pression depuis le début. Avec tout ce qu'il y a eu avec les M23, qui sont aujourd'hui en Ouganda, ils doivent rentrer. Mais la même pression n'a pas été faite à l'endroit du Rwanda. Les FDLR, parmi eux, il y en a qui sont véritablement génocidaires, et ceux qui ne le sont pas du tout. Maintenant,
c'est ça la question, s'il
vous plaît. Oui, c'est ça. La question, c'est qu'il faut faire appliquer les mêmes méthodes pour ceux qui concernent les Congos et pour les Rwandais, que les FDLR rentrent au Rwanda une fois pour toutes et qu'on oublie cette situation, que ça ne serve pas de prétexte à ceux qui voulaient encore une fois de plus agresser les Congos et faire souffrir les peuples.
Voilà, ça c'est un commentaire, c'est pas une question. Hein. C'est bien un commentaire. On prend la prochaine question à Goma.
Moi, c'est monsieur Papi Okuto du journal Le Code de Pignon. Ma question, je la pose à Mary Robinson, au ministre de l'Intérieur. Vous demandez plus, depuis la signature de cet accord, la Rue Sabeba, la communauté internationale a beaucoup demandé ou demandé plus à la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est la même chose? Pourquoi pas l'État faire aussi la même chose avec d'autres pays? Parce que vous parlez avec le même ton, par exemple au président Kagame, que vous parlez au président de la République démocratique du Congo. Au ministre de l'Intérieur, vous avez parlé tantôt des frontières, mais la frontière rwando-congolaise reste jusque-là fermée, jusqu'à 18h. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore des problèmes avec le Rwanda, ou qu'est-ce qui bloque pour que ça soit ouvert 24h sur 24?
Oui, c'est vrai qu'on a posé cette question, que c'est toujours la RDC qui doit faire en plus et que je demande plus de la RDC que des autres pays. C'est pas vrai. Je prends comme envoyé spécial des Nations Unies, du secrétaire général, je prends vraiment la même approche à tous les pays pour ce qui est dans l'accord cadre. Alors j'essaie vraiment, dans une façon très directe peut-être, mais dans une façon juste, d'essayer d'encourager chaque pays de faire en plus. Ce matin, avec le comité d'appui technique, nous avons parlé du plan d'action des 15 points pour, au niveau régional. On a fait un peu de progrès sur plusieurs points, mais je crois que c'est très nécessaire à faire en plus. Alors, c'était ça que j'ai dit dans mon discours au comité d'appui technique. Mais c'est vrai aussi qu'au niveau de RDC, on a des commitments nationaux et il faut la mise en œuvre de ces commitments. Et je travaille avec mon grand ami Martin Kobler pour soutenir et pour encourager l'RDC de faire en plus avec tous les promis qui ont été faits. Alors, c'est dans l'accord cadre. Et j'essaie d'être juste, d'être ami des pays, mais aussi ami des peuples de région et surtout les peuples de l'RDC. Et on avait remarqué sur le FDLR, peut-être dans le passé, on n'avait pas trop de pression sur le FDLR, mais maintenant, au niveau international, on est vraiment convaincu que c'est nécessaire d'aller contre le FDLR, au niveau militaire et au niveau non militaire, et le plus tôt possible.
Nous allons rester à Goma pour prendre une autre question. Allez-y, monsieur le ministre.
La régularisation de la situation est un processus qui se fait. Nous avions rappelé l'ambassadeur, il est encore chez nous, il devra rentrer, il n'est pas encore entré. Nos services avaient demandé à l'époque qu'on ferme. Nous attendons des mêmes services des rapports clairs pour réouvrir. C'est un processus qui se fera. Mais si vous nous transmettez une note secrète pour nous dire pourquoi vous êtes pressé, peut-être que nous vous suivrons.
Voilà, nous allons dire au revoir aux auditeurs et auditrices de Radio Okapi. Nous allons poursuivre cette conférence de presse. Nous allons prendre une question encore à Goma avant de revenir à Kinshasa.
Oui, madame, moi c'est Oster Majvika, je travaille pour la Voix de l'Amérique Swahili et ITV. Juste, je voulais savoir l'objectif de votre rencontre ici à Goma et pourquoi vous avez choisi Goma, République démocratique du Congo. Il y a les éléments des FDLR qui sont en train de s'organiser dans le Nord Kivu à présence de vos éléments des Nations Unies, Renaud Kibirizi et Vermutaho. S'il est arrivé qu'il y a des attaques ou les FDLR attaquent le Rwanda. Parce que nous avons des informations que ces éléments sont arrivés même à Moutaho, à quelques kilomètres de Goma. La responsabilité sera pour les Nations Unies ou pour le gouvernement. Car vos éléments sont ici pour traquer les groupes négatifs.
Bon, d'abord, vous avez demandé pourquoi cette rencontre du comité technique d'appui est ici à Goma. Je crois que vraiment, c'était très important pour le septième rendez-vous, la septième rencontre. On avait six rencontres avant à Nairobi. Que les membres du comité d'appui technique, qui sont des gens de haut niveau, très proches aux chefs d'État des 13 pays de la Caucase, pourraient venir et voir sur le terrain, voir des ex-combattants dans le camp, voir des gens déplacés ici dans l'est de l'ADC. Et aujourd'hui, ils ont la possibilité d'être experts sur tous les sujets. Et demain, on va finir avec une évaluation du plan d'action pour la rencontre des chefs d'État au mois de septembre. Vous avez parlé du problème de FDLR. Je soutiens l'approche de Martin Kobler, le chef de MONUSCO, qui veut vraiment qu'on peut aller contre le FDLR avec le FARDC, parce que c'est beaucoup mieux d'aller ensemble contre le FDLR. C'est beaucoup plus difficile si c'est nécessaire de prendre une action unilatérale, parce que c'est difficile d'avoir un suivi bon sur ça. Alors, je crois qu'on attend en effet le feu vert du président Kabila pour aller contre le FDLR, et j'espère que ça va venir le plus tôt possible.
Nous allons revenir donc maintenant à Kinshasa pour prendre une question au fond de la salle. une question. Allez-y, oui, présentez-vous, donnez-moi le nom de votre organe.
Voilà, Roger Marley Lukunga pour le journal Le Paris. Deux petites questions. La première à M. Scott Campbell. Le nombre des cas, vous l'avez dit, d'atteinte aux droits de l'homme a triplé dans la période sous examen. Mais cependant, comme PS, c'est-à-dire post-scriptum, vous avez dit que les responsabilités sont partagées à 50% par les autorités publiques de la République démocratique du Congo et à 50% par les éléments des FARDC. Puisque toutes les étapes de sensibilisation n'ont pas donné de fruits, que doit-on envisager cette fois-ci pour que les droits de l'homme en RDC ne soient pas toujours entravés? Que doit-on envisager? Deuxième question.
C'est peut-être au banc qui est devant là.
Pourquoi est-ce que la communauté internationale ne fait pas pression à Kigali pour qu'il y ait le dialogue inter-rwandais comme cela a été le cas en République démocratique du Congo?
Monsieur Scott Campbell.
Merci de la question. Je pense que le respect, établir le respect des droits humains, c'est aussi un processus. Et malheureusement, on a un long chemin à parcourir ici, mais il ne faut pas aussi, même en notant les statistiques qui sont parfois accablantes, il ne faut pas être pessimiste, il faut reconnaître le progrès qui est en cours. Concrètement, il y a deux choses à renforcer, bien qu'il y a des efforts très importants en cours faits par le gouvernement, par la société civile et par les Nations Unies et les membres du corps diplomatique aussi. Mais de un, c'est bien sûr la réforme du secteur sécuritaire, notamment à travers la formation, l'éducation et des militaires et les membres de la PNC. Ce sont des processus qui sont déjà en œuvre. Il faut évidemment les renforcer et il faut intégrer aussi un mécanisme de vetting, comme le Conseil de sécurité l'a insisté, pour que ceux qui sont responsables de violations des droits de l'homme soient exclus du service public, notamment au sein des forces de défense et de sécurité. L'autre aspect où il faut renforcer, mais en même temps je note le progrès fait, c'est la lutte contre l'impunité. Il faut bien sûr que les responsables des auteurs de violations des droits de l'homme, parmi les groupes armés, parmi aussi les agents étatiques, soient traduits devant la justice, soient redevables. Là aussi, je dois souligner que l'année passée, nous avons eu une augmentation en termes des poursuites judiciaires contre les auteurs. Et on a vu une réduction globale dans le nombre de violations des droits de l'homme, y compris les cas de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Donc, encore une fois, c'est un processus. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Il faut pousser pour que ça aille plus vite. Bien sûr, tout le monde, je pense, en commençant avec le peuple congolais, tout le monde est impatient pour voir ça.
Merci. Alors, en tant qu'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, Madame Mary Robinson, est-ce que vous pouvez donner quelques éléments de réponse aux journalistes qui demandaient pourquoi la communauté internationale ne fait pas pression pour qu'il y ait un dialogue inter-congolais? Inter-rwandais.
Je crois que la communauté internationale et moi-même comme envoyé spécial, nous avons essayé dans les rencontres avec le président Kagame et avec les autorités du gouvernement de Rwanda d'encourager plus de coopération, même au niveau d'intelligence, d'évidence de FDLR et d'être prête à recevoir les gens qui sont contents d'être partie d'aider RRR, RRR. Et je crois que c'est pas vrai qu'on ne parle pas au gouvernement de Rwanda à ce sujet. Souvent, je les ai soulevés avec le gouvernement de Rwanda. Et dans le passé, le gouvernement de Rwanda a reçu assez des ex-FDLR. Et ça doit continuer, mais à mon avis, c'est nécessaire d'avoir d'aller dans une façon militaire contre l'FDLR parce qu'il y a des attaques, comme le ministre a dit, et que c'est nécessaire de les adresser comme groupe armé. C'est ce que les chefs d'État dans la conférence des Grands Lacs, dans l'accord cadre, ont dit plusieurs fois. Il faut aller contre tous les groupes armés et l'FDLR. Maintenant, je crois que c'est une priorité.
Avant de mettre fin à cette conférence de presse, une dernière question à Goma.
Je voudrais poser la question à l'ambassadeur de l'Union africaine qui est présent dans la salle. Est-ce que le processus de paix par la signature de l'accord est un processus qui concerne uniquement les Européens? Où sont les Africains dans cette région de la paix? Et ma deuxième question s'adresse au ministre de Voyage. Dans votre speech inaugural aujourd'hui, vous avez dit, je cite, utiliser une main noire, le Sidi continue à soutenir les troupes négatives et les groupes armés. Cette main noire est-elle interne ou externe? Si elle est externe, quelle est cette main noire?
Oui, merci. Je ne crois pas qu'il soit juste de parler. On peut commencer. Je ne crois pas qu'il soit juste de parler uniquement de l'intervention des Occidentaux. Rappelons-nous que l'accord cadre a été garanti, certes, par les Nations Unies, mais c'est au-delà des Occidentaux, mais par l'Union africaine, par la CIRGF et par la SADC. Et pour la première fois, les chefs d'État signataires de l'accord cadre se sont mis ensemble dans un mécanisme régional de suivi des engagements régionaux. C'est quand même pas rien que les chefs d'État africains aient décidé, dans la mesure où ils ont souhaité mettre vraiment l'accent sur les causes profondes du conflit, que ce soit eux-mêmes qui se soient constitués un mécanisme pour suivre le respect des engagements sur le terrain. Et ils ont décidé, les chefs d'État, de mettre en place un comité d'appui technique composé, comme Marie l'a dit, de leurs représentants de haut niveau pour suivre sur le terrain les actions prioritaires à faire. Donc je pense que c'est une... je crois que vous n'avez pas raison en parlant d'intervention uniquement des Européens. Au contraire, l'accord cadre est une affaire purement africaine qui engage les chefs d'État africains, qui engage les décideurs africains, et je pense que il faut effectivement noter cela comme une avancée profonde pour remettre effectivement la situation des crises dans la région des Grands Lacs et en RDC au devant de la scène. Je vous remercie.
Et si je peux ajouter à ce que mon ami Boubacar Diarra a dit, on a aussi le président de la CGLA, le président Dos Santos, qui a pris vraiment un leadership, un rôle de leadership parmi les chefs d'État. Il a eu le sommet à Luanda au mois de janvier, mais après ça, un mini-sommet. J'étais récemment à Luanda et l'Angola vraiment a pris le rôle de président dans une façon très active et avec beaucoup de volonté politique qui est le plus important pour la région.
S'agissant de la mémoire, en tant que responsable de service, je connais cette mémoire et il faut la neutraliser. Croyez-vous à ce moment-là qu'il soit prudent de la dévoiler? Non, mais je n'ai pas les travaux de nos services.
Merci à tous d'avoir suivi cette conférence de presse. Nous remercions également les invités depuis Goma et l'ensemble des journalistes à Goma, ici à Kinshasa. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine.